savoir, Louise Touret.
Mais que se passe-t-il à 13 ans et un peu avant, et particulièrement chez les filles? Nos invités explorent un âge, la préadolescence, et nous donnent à entendre la voix d'enfants attachantes, mignonnes, naïves, cruelles, grossières, rêveuses, pragmatiques. Tout ce qu'on peut être entre 10 et 13 ans, enfin, je ne sais pas. Cela reste assez mystérieux. Et c'est peut-être parce que ce mystère résiste que nous sommes fascinés par ces préadolescentes en état de métamorphose, des enfants dont la sensibilité est unique, dont l'acuité est particulière, vraiment particulière à cet âge et peut-être caractéristique des filles. Un mystère qui résiste donc aux explications et qui est plein de charme. C'est tout ce qui, je pense, explique le succès des Cahiers d'Esther, de Riyad Satouf, qui est notre invitée aujourd'hui, et le succès d'un podcast Entre, produit par Charlotte Pudlowski, où la jeune Justine raconte sa vie et sa préadolescence. Et parce que raconter les enfants, c'est les écouter, cette émission fera la part belle à la question du langage. Nous entendrons Alain Rey, le célèbre linguiste, et puis Aurore Vincenti, qui est linguiste aussi, qui s'est intéressée au langage des adolescents, sera notre invitée. C'était tellement chic d'avoir une réfugiée politique à table. L'autrice Abnous Chalmani nous raconte son enfance marquée par l'exil de son Iran natal et qui finit, magnifique ironie du sort, par fasciner la gauche caviar à Paris. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert et c'est en fin d'émission.
Je suis l'ado, Eugénia fait toujours la maman, Cassandra joue toujours le bébé, ça c'est nous. Et dans le groupe, chacune fait toujours le même rôle aussi.
Bébé, ça ne va pas bien du tout, tu as vomi partout.
Mon bébé a de la fièvre, qu'est-ce que je vais faire?
On lui donne une pipette de médicaments?
Eh, hey, nous on fait quoi là?
Oh, vous les ados, fichez-nous la paix, on doit s'occuper des bébés. Tenez, voilà plein d'argent, allez faire du shopping.
Ouais, on est trop riches.
On a des soucis avec elles, c'est vraiment des ados à problème.
Dans ce jeu, il n'y a pas de papa, ils sont pas là. Ils doivent travailler, ou je sais pas.
Bon, allez, au magasin, on va voir les nouvelles robes.
Eh, hey, bonne idée.
Le coin du shopping, c'est vers les arbres à côté du préau.
Franchement, cette tenue, elle est somptueuse, quoi.
Oh oui, vraiment.
Regarde celle-là.
Waouh.
Eh, mais franchement, trop beau.
Une fois qu'on a acheté nos habits, on les met, et ensuite on fait un défilé de mode devant les mamans et les bébés.
Violette, elle fait des pauses, mais bon...
Super, wesh!
Moi, je défile tout simplement.
Waouh!
Éblouissant, sa mère!
Les mamans et les bébés votent pour le plus beau mannequin. La gagnante repart avec une DS et un iPhone. Moi, je gagne tout le temps.
Je fais comme si j'en avais vraiment un dans la main.
Yes!
Mais comme si je l'avais vraiment...
Allô? Coucou, ma belle!
Je suis tellement dégoûtée, là.
Si Violette est trop triste d'avoir perdu, je lui donne la DS. Mais je garde l'iPhone.
Des fois, on découvre que les autres jouent au papa et à la maman sans nous, sans les ados.
Elles nous ont pas prévenus.
Hé, hey, mais pourquoi vous jouez sans nous?
On est enceinte, wesh, t'as compris ou pas?
Waouh!
Ah, ça, on respecte vachement, hein.
Éblouissant! Ça, c'est un extrait de la série animée Esther qui est diffusée sur Canal+. Riyad Satouf, bonjour.
Bonjour.
Un extrait où on prend Esther au début, hein, ça correspond au tome 1 des bandes dessinées. Elle n'est pas encore adolescente, mais c'est déjà un âge qui l'intéresse beaucoup. On joue à être des ados. C'est vrai que c'est un jeu auquel les enfants jouent souvent. Maintenant, Esther a atteint l'âge de l'adolescence. Elle est au collège. Elle a 13 ans dans le volume 4. On rentre dans le dur du sujet. Est-ce qu'elle sent qu'elle a atteint cet âge qui l'a tellement fascinée?
Alors, c'est vrai que quand on a commencé à faire ce projet, notamment dans l'extrait que vous avez passé, elle avait 9 ans et elle me parlait tout le temps de l'état d'ado qui était pour elle une sorte d'eldorado à atteindre. C'est-à-dire, c'était surtout par rapport au rapport avec les garçons. Elle rêvait de ce moment où elle pourrait aller à des fêtes, où elle pourrait vivre des aventures sentimentales, etc. Parce que les garçons à 9 ans, ce que j'ai raconté dans la BD, était pour elle un cauchemar. C'était des sortes d'animaux agressifs qu'elle détestait, etc. Mais elle avait hâte d'arriver à ce moment où elle pourrait enfin avoir des contacts plus poussés. C'est en train d'arriver, en effet. À 13 ans, là, ça y est.
Ouais. Et avec des histoires de fêtes assez rigolotes, mais je vais pas raconter ces histoires qu'il faut lire. Donc dans ce dernier tome qui vient de paraître chez Alary Édition, on doit dire aussi que l'Arabe du futur, ça c'est le 4e tome qui est paru à la rentrée, toujours chez Alary Édition. Charlotte Pilowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice avec Mélissa Bounois du studio de podcast Louis Média et autrice d'un podcast qui s'appelle Entre. Là aussi, il est question d'adolescence. On va entendre un extrait. Je vais quand même saluer Aurore Vincenti qui est à côté de vous. Bonjour. Vous aussi, vous êtes autrice. Vous êtes linguiste et vous venez de publier Les mots du bitume, petit dictionnaire de la langue de rue aux éditions Le Robert. Il y a beaucoup à dire sur le langage des adolescents. Le langage change entre l'enfance et l'adolescence.
Oui, vous parliez de cet âge qui est un âge de la métamorphose, de la transformation. Et je note, puisque j'ai étudié attentivement et Esther et Justine du podcast, qu'elles ont un langage en transformation, même entre les quatre tomes d'Esther. Je vois l'évolution, je vois de nouveaux mots qui arrivent, de nouvelles expressions, de nouveaux tics de langage. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue linguistique.
On va consacrer toute la deuxième partie de cette émission à cette question de la langue. Mais je voudrais continuer sur cette histoire de passage entre l'enfance et l'adolescence, parce que si l'adolescence fascine, le passage entre l'enfance et l'adolescence provoque quelques inquiétudes et en tout cas fait beaucoup réfléchir. Et là, c'est Justine qu'on va entendre dans Entre.
On comprend rien du tout à une vidéo et on explose de rire. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on devient pré-ado. Et du coup, moi, c'est ça. Et Jo, elle m'a raconté que c'était le déclic des Barbies. Sauf qu'elle, son déclic, elle l'avait eu à 8 ans.
Et toi, t'es pas une ado dans ta tête ?
Pré-ado, bientôt. Quand je serai en 6e, je pense que je serai un peu une ado, même si c'est qu'à 13 ans qu'on est clairement ado. J'adorerais rester toujours dans cette période pré-ado, comme ça tu restes enfant et en même temps t'es un peu une ado quand t'en as envie. Tu choisis au moment où t'en as envie, tu choisis.
Qu'est-ce qui te fait peur avec l'adolescence ? Pourquoi t'as envie de rester enfant ?
On m'a toujours dit « profite de ton enfance, moi j'ai envie de retourner en enfance ». Alors je profite, et puis je commence à me dire « mais t'es en train de devenir une ado ? Reste enfant, j'ai vraiment envie de rester une enfant, c'est pour ça ».
C'est quoi le danger de devenir ado ?
C'est compliqué à expliquer, parce que t'es plus pareil. Par exemple, quand tu montes sur... Tout à l'heure, j'étais sur un manège. Avant, je m'imaginais des histoires. Il y avait Zorro derrière moi qui me poursuivait. Et là, c'est différent. Je montais dessus et c'était complètement différent. Je m'ennuyais, j'étais comme ça. Je faisais « Alors, Vif Argent, comment ça va ?» Alors que je m'en fichais complètement. J'essayais de revenir en enfance, mais c'est trop tard. Quand t'es sortie, t'en rentres plus. Et je voyais la fille de ma marraine qui était juste à côté de moi, qui était en train de s'amuser, qui était en train de donner des coups sur le derrière du cheval, qui était en train de parler toute seule, et je me disais, mais je suis plus une enfant, je suis plus comme elle. Et puis le reste de la journée aussi, j'étais plus du tout, j'essayais de jouer à faire cuire des carottes sur une fausse poêle, et je m'amusais plus du tout, alors qu'avant, j'imaginais que j'étais dans un restaurant de luxe, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais devenue une pré-ado.
L'âge auquel on peut plus faire cuire de carottes sur une fausse poêle, c'est un exemple qui m'avait beaucoup marqué parce que il y a une magie qui s'en va. Et Justine, qui est une petite fille, une adolescente maintenant réelle, s'en rend compte et vous en parle, Charlotte Pudlowski. Et quand vous la réécoutez, et vous avez dû l'entendre souvent, hein, puisque vous êtes productrice de ce podcast, vous l'avez monté, on voit que vous êtes encore complètement émue.
Oui, parce que je trouve que, en fait, et c'était toute l'idée du podcast, je trouve que quand on n'a pas d'enfant de cet âge-là dans sa vie, c'est une parole qu'on entend hyper rarement. Je pense que il y a évidemment des documentaires, des sujets, etc. sur les enfants, mais passer vraiment du temps à entendre la langue d'une petite fille en construction, c'est hyper émouvant. Et moi, ce qui m'avait ému quand j'ai choisi de faire ce travail avec Justine, c'est que j'avais eu une grande conversation avec elle un soir par hasard. Je dînais chez ses parents et je m'étais retrouvée, elle s'était disputée avec sa mère et je m'étais retrouvée à la consoler et tout ça. Et on avait parlé vraiment une demi-heure, trois quarts d'heure dans sa chambre. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable ce qu'elle est intelligente. C'est incroyable à quel point c'est une vraie personne. C'est incroyable à quel point à 11 ans, on est déjà une vraie personne. Et quand on n'a pas d'enfant de cet âge-là dans son entourage, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu oublier parce que je trouve que les médias ne nous le rappellent pas tellement. Et donc c'était un peu ce désir-là qui présidait au podcast de faire entendre cette voix-là qui est effectivement, je trouve, hyper émouvante.
Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette voix ?
Bah, moi, je pense que ce qui est frappant dans ce qu'elle dit, cette peur qu'elle a de devenir adolescente ou préadolescente, et c'est un peu ce que Riyad Satouf disait sur Esther aussi, c'est qu'il y a à la fois une très grande envie de grandir et une peur, parce que de la part des adultes, il y a, je trouve, à la fois une idéalisation de l'enfance qui serait un moment fabuleux d'innocence, de merveille, etc., et qui en même temps est une certaine privation de liberté. Et ce que Riyad dit quand vous dites Esther, elle a envie d'aller à des soirées, elle a envie de voir des garçons, etc., c'est aussi qu'elle a envie de liberté. Et je pense que c'est ce passage-là qui est un peu vertigineux. On va devenir libre et c'est merveilleux et en même temps, c'est hyper effrayant.
Riyad Satouf, Esther, c'est aussi une vraie petite fille et c'est aussi pas son vrai prénom comme Justine. Pourquoi vous avez eu tellement envie d'écouter cette adolescente, préadolescente, petite fille, vous raconter sa vie?
Bah, c'est arrivé vraiment par hasard parce que j'étais en train d'écrire le second volume de l'Arabe du futur, donc c'était en 2013 ou 2014, et je me rendais compte que le livre serait beaucoup plus long que je l'avais prévu au départ, et je racontais mes années d'école en Syrie. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai revu la fille d'un couple d'amis à moi que j'avais pas vu depuis très longtemps. En fait, à chaque fois, il la laissait à une babysitter.
Et, comme on veut, je crois.
Et là, il l'avait amenée avec eux, et c'était vraiment comme une petite radio, en fait. Elle parlait, elle faisait des monologues sans fin sur sa vie, sur les garçons, ce qui la faisait rêver, ce qu'elle détestait, etc. Et ce que j'aimais beaucoup aussi dans cette idée-là, c'est que toutes mes bandes dessinées parlaient de gens qui avaient des problèmes. Par exemple, ne serait-ce que ma propre vie en Syrie,
vous,
c'était
oui.
à la frontière des gros des gens qui ont des problèmes dans la vie. Et ce que j'aimais beaucoup avec cette vraie Esther, c'est qu'elle était, c'était quelqu'un en fait qu'on aurait pu qualifier de sans histoire. C'est-à-dire ses parents s'aimaient, elle a un frère relou, elle est bonne à l'école, elle est populaire. Enfin, c'était vraiment quelqu'un. À la rigueur, moi, si j'étais dans sa classe, je pense que je l'aurais détesté à son âge. Mais j'aimais bien aussi. Je me suis dit bon, je vais partir en vacances un peu de moi-même et de ma façon de voir le monde, et ce serait rigolo de retranscrire ce qu'elle raconte. Voilà. Mais c'est vrai que je lui pose finalement assez peu de questions. J'aime bien. Retranscrire les trucs qu'elle me dit comme ça, quoi, voilà. Avec sa pudeur, des fois, voilà, il y a des choses qu'elle me dit pas, mais elle cherche quand même à me les dire sans me les dire, et j'essaie de les retranscrire comme ça.
Vous partez en vacances de votre façon de voir le monde, mais moi je pense qu'il y a des points communs entre Esther et vous. Si elle parle autant, c'est parce qu'elle raconte, elle observe, elle regarde autour d'elle aussi les autres, elle les observe avec une certaine cruauté parfois, et... Est-ce que c'est un regard que vous partagez, en tout cas une acuité sur le monde qui nous entoure, les copains, les profs, les parents?
Bah, Esther, quand elle était jeune, notamment dans le tome 1 et un peu le tome 2, elle était ultra cruelle avec des gens. Avec sa classe, ils harcelaient un petit gamin. D'ailleurs, elle l'a revu il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai fait une histoire dessus il n'y a pas longtemps, qui sera dans le tome 5. Et elle était sans pitié, mais c'était aussi cet aspect des choses qui me plaisait parce que. Moi, personnellement, j'ai grandi avec des gens, des enfants qui étaient souvent sans pitié. J'ai moi-même été sans pitié. L'être humain, il apprend à être un peu sympa avec les années qui passent, quoi. Mais les enfants sont durs entre eux, quand même. J'avais aussi envie de retranscrire ça. Cette dureté. Les cahiers d'Esther, c'est pas pour les enfants, en fait. C'est pas des histoires pour enfants. Le monde des enfants est assez peu pour enfants, en général. C'est vrai que, il y a beaucoup d'histoires que m'a raconté Esther qui, je savais pas comment j'allais les mettre en bande dessinée, en fait. Elle a été confrontée à des trucs super durs assez souvent, alors qu'elle est d'un milieu finalement assez privilégié.
Oui, ça documente en quelque sorte la méchanceté enfantine, une forme de cruauté. On se rejette, on fait des groupes qui en excluent d'autres. Le langage est extrêmement violent. Et finalement, moi, quand j'ai eu les premiers Esther entre les mains, je me suis demandé si je pouvais les faire lire à des enfants de cet âge-là. Et il se trouve que les enfants adorent Esther. Ils l'adorent.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que de la cruauté non plus. C'est-à-dire, elle est amoureuse intensément de trois garçons en même temps. Elle vit des trucs, elle a des envolées romantiques quand elle joue avec ses copines. Enfin, tous les sentiments sont neufs et extrêmes, quoi. Donc, c'est ça aussi que je voulais observer. Elle est très méchante, mais elle peut être aussi très gentille. Elle peut être très amoureuse, très triste. Enfin voilà, tous les sentiments sont intenses.
Mais comment vous comprenez ce succès que vous n'aviez pas prévu et qui dépasse de loin le public que vous visiez au départ, plutôt celui des adultes?
Ben, honnêtement, j'essaie de pas trop y réfléchir. Je n'intellectualise pas tellement les. Voilà, c'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup d'adultes qui lisaient. Et je crois. Alors, pour me rappeler de ma propre expérience de lecteur enfant ou ado, j'étais très attiré par les livres qui me semblaient interdits pour moi, où les gens me disaient non, pas ça. Il y a des gros mots dedans. C'est pas pour ton âge, d'accord. Et dès que les gens étaient partis, hop, je prenais le livre et je le regardais. Et je me disais ah, c'est trop bien. Et tout. Donc c'est vrai que j'ai souvent eu des histoires de lecteurs qui me disaient ah, je voulais pas lui faire lire. En fait, elle l'a lu un jour où je faisais la cuisine. Enfin voilà. Il y a les enfants piquent les livres, mais c'est pareil avec l'Arabe du futur. En fait, il y a des histoires très très dures dedans. Il y a énormément d'enfants qui les lisent. Mais bon, après tout, moi j'ai lu des Stephen King à 9 ans. Est-ce que vous avez lu ça de Stephen King? Vous n'avez pas lu le troisième volume?
Je m'y refuse. Encore aujourd'hui, je pense que ça me ferait.
On en parle comme si c'était peur. Quelque chose de très populaire et mainstream. C'est l'un des livres les plus violents qui existent. Il est incroyablement gore.
On a fait une émission sur la peur et on peut l'écouter en podcast. Hélène Frappa. On parle du cinéma d'horreur et de sa fonction pour les adolescents. Je vous invite à entendre cet entretien. Alors les filles de 13 ans en particulier fascinent depuis longtemps le public. On a envie, on aime les entendre, à la fois nous les adultes et puis évidemment les adolescents. Alors j'ai pensé à un livre qui a marqué ma génération, Des cornichons au chocolat. C'était un livre qui était paru avec le nom d'auteur Stéphanie. En fait, c'était Philippe Labro, un vieux journaliste qui avait écrit ce récit, mais en pensant aux adolescentes de son entourage. Donc il y a une démarche hein, qui correspond aussi peut-être un petit peu à la vôtre. Ça a été un succès phénoménal dans les années 80. Et puis un film qui a beaucoup marqué une génération. La mienne avec une héroïne, Charlotte, c'était L'effronté de Claude Miller.
Une natte.
Ah, quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi, hein, Léon?
Mais c'est pas comme ça! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas! Je suis sûre que c'est pas comme ça! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison! On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau! Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Salut. Bon, on a beaucoup joué à imiter Charlotte Gainsbourg quand on était plus jeune. Ce grand succès de L'effronté, donc vous aurez reconnu la voix de Charlotte Gainsbourg dans ce film de Claude Miller, c'est un récit d'adolescence qui pourtant ne renvoie pas à la vie de chacun. C'est une histoire très particulière. Et là encore, c'est une fille de 13 ans, Charlotte Pudlowski. Pourquoi les filles? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Pourquoi les filles et pas les garçons?
En fait, je ne sais pas si on est collectivement plus fasciné par les filles, mais je pense qu'il y a peut-être moins d'endroits où on donne la parole aux filles et que du coup, quand on le fait, c'est presque un soulagement pour le public. Et de la même manière qu'on sait, on en parle beaucoup ces dernières années, dans le cinéma populaire, dans la littérature, il y a beaucoup plus de place qui est donnée aux hommes. Je pense que c'est pareil dans la littérature enfantine ou dans le journalisme ou dans, voilà, dans tout ce qui fait nos représentations, et que ça fait un bien fou aux petites filles de se dire tout à coup où j'ai le droit d'être cruelle, où je suis pas la seule comme Justine à être victime de cruauté. Et d'avoir des représentations qui correspondent à leur vécu.
Et pourquoi, d'après vous, on est passé de fiction à des récits vrais? Parce que ces films et ces livres qui ont remporté beaucoup de succès pour les générations précédentes, et encore aujourd'hui, il y a des fictions qui rencontrent du succès, c'était des adolescentes imaginaires. Aujourd'hui, vous le dites tous les deux, vous assumez le fait que ce sont des histoires vraies, c'est écrit en bas de chaque page des cahiers d'Esther. Et puis Justine, c'est une vraie enfant, Charlotte.
Oui, c'est du documentaire. Je pense que la frontière est compliquée entre journalisme et documentaire, mais clairement dans les inspirations, par exemple, moi j'avais adoré un film qui s'appelle Les Habitants de Depardon, où il donnait la parole à plein de Français dans des villes moyennes, et vraiment il les faisait parler devant sa caméra dans une caravane qu'il avait déplacée un peu partout en France. Et c'est vrai que pour moi, Entre, c'est aussi un documentaire sur la parole et sur la manière dont cette parole émerge, dont le langage se construit et aussi comme outil de pouvoir. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une question de représentation et du pouvoir qui est donné ou pas aux petites filles, puisque la parole, c'est aussi une question de pouvoir.
du côté des petites filles, c'est un livre important aussi dans la sociologie et l'histoire de l'enfance. Riyad Satouf, vous aussi, il y a la petite mention d'après une histoire vraie en bas de chaque page. C'est important de le rappeler à chaque fois.
Bah oui, enfin en tout cas pour, déjà par curiosité intellectuelle pour moi en fait je voulais découvrir un nouvel univers que je ne connaissais pas qui était l'univers des jeunes filles, comment elles grandissent, comment la société les atteint en fait. C'est vrai que la vraie Esther, c'est une jeune fille qui était très protégée par ses parents, elle avait pas le droit de regarder la journal télévisé parce que il y avait des nouvelles effroyables, elle avait pas de téléphone portable, elle lisait des livres, etc. Mais quand même, quand il y avait un attentat, elle en était au courant d'une façon qui, enfin, j'étais curieux de savoir ce qu'elle comprenait du monde de là où elle était. Et c'est vrai que en le comparant avec ma propre expérience, où moi j'étais au contraire ouvert sur tout, enfin on m'interdisait pas grand
pas
chose
dans protégé.
Le pas très protégé, voilà, beaucoup moins protégé. Et je me souviens voilà que quand j'étais ado aussi, c'était par rapport à la représentation des ados. Moi, j'ai grandi dans les années 90, je me rappelle à cette époque-là, il y avait un dessin animé qui faisait scandale en France, qui s'appelait Ken le survivant. Les gens de ma génération doivent le
extrêmement
connaître.
Extrêmement violent.
C'était des mecs qui s'enfonçaient des doigts dans le corps et se déchiquetaient mutuellement. Et alors tout le monde, vraiment, Ségolène Royal avait fait un livre là-dessus pour interdire, etc. Et il y avait au même moment une autre série qui s'appelait Hélène et les garçons. Et en fait, pour moi, regarder Ken le survivant était un plaisir délicieux. Ça ne m'a jamais choqué. Hélène et les garçons, c'était le truc le plus violent que j'ai jamais vu. C'était que des gens ultra beaux, plus grands, qui s'embrassait, qui s'aime. En fait, je crois qu'à cette époque-là, je me suis dit, un jour, je ferai un truc qui parle vraiment des trucs que je vois tous les jours et de la vie que je mène avec mes potes ou, parce que ça ne ressemble pas à ça. Et c'était très violent de voir que tous les gens, toutes les filles dont j'étais amoureux, regardaient ça tout le temps en étant bouleversé de cri-cri, là, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui
sortait cri-cri avec, d'amour.
Cri-cri d'amour et tout. Je me disais, mais c'est pas vrai. Moi, je rêvais que Ken les déchiquette tous et les, et leur arrache la tête. Enfin, voilà, c'était. Et donc, c'est vrai que c'est nourri de ce terreau que est venu mon intérêt, sans doute, pour la description de choses réelles. Voilà.
Et puis, il y a une autre référence, Riyad Satouf. Ça, c'est dans l'arabe du futur. C'est Juliette, je t'aime, un dessin animé. On peut en parler parce qu'il est inspiré d'une bande dessinée japonaise de Rumiko Takahashi, qui a obtenu un prix au Festival de la BD d'Angoulême.
Pour le coup, c'était le personnage féminin complètement type d'une œuvre patriarcale. Je sais pas, c'était une fille extrêmement timide qui faisait le ménage toute la journée et tout le monde était amoureux d'elle parce qu'elle espérait dépasser sa timidité. Voilà. Mais je me rappelle, juste pour citer un jour, il y a un autre livre dont on n'a plus jamais reparlé. Je crois qu'il n'était même pas spécialement connu, mais qui était coédité par Radio France et que moi j'avais lu assez jeune. Qui est un incroyable chef-d'œuvre, je trouve, ça s'appelle « Ce que je ne peux pas vous dire ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était une collection de témoignages d'ados anonymes qui parlaient de leur vie. Et en fait, c'est un livre qui a été coédité par Radio France, qu'on trouve encore dans les bouquineries. Et je me rappelle, c'était des collégiens qui parlaient de choses qu'ils avaient vues ou faites dans leur quotidien, mais qui n'osaient pas dire à leurs parents, ni à leurs profs, ni à personne. Il y avait des histoires incroyables. Et là, pour le coup, je me disais, mais ça ressemble à ce que j'ai connu, à tout le. Donc voilà, ce rapport au réel était très important par rapport à ça, parce que le réel est souvent plus, comment dire, j'allais dire un truc complètement nul, le réel est plus réaliste, mais le réel est toujours plus surprenant. Dans la description que ce qu'on peut inventer.
La réalité dépasse la fiction en général, c'est la formule qu'on choisit. Question plus anecdotique, comment vous avez choisi le prénom Esther et vous Charlotte, comment vous avez choisi le prénom Justine ?
Alors le prénom Esther, c'est un des prénoms de la vraie jeune fille, c'est pas son prénom principal. Puis c'est aussi un prénom que j'adore, moi si j'avais eu une fille, j'aurais aimé l'appeler Esther. Voilà, je trouve ça magnifique comme prénom. Donc voilà, c'est comme si j'avais une fille, c'est ma fille de papier.
Charlotte ?
Moi, c'est elle qui l'a choisie. On s'est dit assez vite qu'il lui fallait, qu'il fallait qu'elle choisisse un prénom. Et du coup, je lui ai laissé entière latitude. Et a posteriori, je me suis beaucoup interrogée sur ce prénom et ce que ça dit d'elle, qui n'est pas forcément celui que moi j'aurais choisi.
Justine, il y a juste dedans, c'est très
oui,
frappant.
Et puis il y a un côté, je trouve, finalement un peu lisse dans ce prénom qui correspond pas du tout à ce que moi je ressens d'elle. Et voilà.
Aurore Vincenti ?
Non, je m'interrogeais sur ces questions entre réalité et fiction, et je me disais que véritablement, il y a quelque chose dans la fiction qui déçoit par son côté très binaire ou stéréotypé. Et vous parliez d'Hélène et les garçons, et c'est vraiment du cliché en barre. Et repasser par la réalité, par le documentaire ou le témoignage, ça permet justement de sortir de ce stéréotype et d'accéder à des personnalités plus en relief. Hein. Vous disiez que Justine était en fait moins lisse que son prénom ne l'est. Penser, ou je pense à Esther qui, elle, dans son rapport aux garçons, elle penche tantôt vers bon, il faut l'avouer, les garçons sont supérieurs. Elle le dit à un moment, mais on comprend bien que c'est pas que les garçons sont supérieurs, mais que c'est que la société fait que les femmes ou les filles sont soumises au pouvoir des garçons. Et au fil des tomes, elle s'affranchit un peu de ces visions-là, elle se crée sa propre version de ce que c'est qu'être une fille ou une femme. Et c'est ça qui est très intéressant, de ne pas en rester au cliché de bah, les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça. Et ça, c'est ce qu'a tendance à véhiculer la fiction un peu adolescente.
Mais en fait, c'était un peu la réponse que j'attendais quand j'ai posé la question « Pourquoi les filles ?» Parce que la question qui traverse le podcast et la BD, c'est la question de l'identité féminine. Bon, voilà, ça c'est la question adolescente, mais aussi de la place des filles et des femmes dans la société, et on vit un moment très particulier concernant cette thématique qui circule d'une manière tout à fait inédite dans la société. Là aussi, les adolescentes nous renvoient un miroir et nous parlent de ce qui se passe finalement, Charlotte Pudlowski.
Oui, et puis je crois que leur donner la parole, c'est aussi à un moment donné dire que ce qu'elles ont à dire est intéressant. Et moi, il y a un truc qui m'a fascinée avec Justine, et qui est aussi ce que Riyad vous aviez dit d'Esther un jour en interview. C'est que moi, Justine, elle me disait vachement au début, mais je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à moi. Je comprends pas ce qui t'intéresse chez moi. Je sais pas si Esther le disait sur la même tonalité, mais en tout cas, de la part de Justine, c'était vraiment, je suis pas intéressante, je ne vaux pas la peine d'être écoutée. Et il y a un truc vraiment qui s'est passé, je trouve, sur le podcast pour Justine à titre personnel, et j'espère pour plein de petites filles qui l'ont écoutée, puisque je sais que on a eu plein de mails de parents qui ont écouté avec leurs enfants, etc. C'est de dire, en fait, bon, je suis pas seule, moi, voilà, s'il m'arrive des choses difficiles au collège, je suis pas seule, etc. Mais aussi, je peux être intéressante, et Justine a reçu énormément de mots, de mails, de commentaires, etc., de gens qui lui disaient qu'elle était formidable, ou qui s'identifiaient, ou qui la trouvaient, je sais pas, hyper brillante, ou ceci ou cela. Et je pense que elle, ça a un peu gonflé son ego, ce qui est toujours bon. Si j'ai fait ça dans ma vie, déjà gonfler l'ego d'une petite fille, je suis contente. Mais j'espère que ça donne aussi le sentiment à plein de petites filles qui se disent, oh, je suis pas intéressante. De toute façon, quand je parle, c'est pas intéressant. Puis de toute façon, personne m'écoute. De dire, bah en fait, si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de parler, et ça vaut le coup que les gens vous écoutent.
Personne ne m'écoute, c'est une phrase qu'on dit beaucoup hein, quand on a 13 ans, mais je voudrais revenir à la question du féminisme. Riyad Sattouf, vous êtes très féministe, c'est l'impression que ça me donne. C'est une sensibilité qui se dégage, à mon sens, de vos bandes dessinées. Esther aussi, hein.
Mais disons que c'est vrai que ayant grandi avec les garçons, j'ai observé très tôt en quoi consistait la construction de l'identité masculine, disons, surtout que en habitant à la fois dans un village en Syrie et en grandissant en Bretagne, j'ai pu voir que quand même ça pouvait paraître très différent, les bases profondes étaient un peu les mêmes, qui sont les bases patriarcales, etc. Et donc ça m'a été extrêmement intéressante. Enfin, j'ai été intéressé très vite par parler de ces questions-là, parce qu'en fait, j'étais pas capable d'être un garçon comme les autres. Voilà, j'aimais pas le sport. Enfin, j'arrivais pas à courir après un ballon. J'étais essoufflé tout de suite. J'avais une petite voix efféminée. Les mecs arrêtaient pas de me dire que j'avais une voix de PD. Je l'ai entendu toute mon enfance. Je me disais, mais pourquoi y a-t-il ces normes? Pourquoi elles existent? Pourquoi est-ce que c'est les mecs qui parlent comme ça et qui font du foot? Pourquoi c'est eux les chefs? Pourquoi c'est pas les mecs qui parlent comme ça? Enfin, moi, j'étais plus intelligent. Enfin, je vois, il y avait tout un espèce de truc qui me semblait complètement aberrant. Et en dessous de ça, évidemment, il y avait le monde des filles je me disais, mais c'est incroyable comment cette soumission à la domination masculine, je comprenais pas que ce ne soit pas ça saute pas aux yeux de tout le monde tout le temps. Donc, j'ai toujours abordé ces sujets-là dans mes BD, mais même dans mes films depuis très longtemps, parce que ça m'a toujours. Et c'est étonnant de voir que dans les cahiers d'Esther, dans les histoires que me raconte Esther, en fait, le sexisme n'a pas disparu. Moi, je trouve qu'il est même presque plus fort qu'avant. À chaque fois qu'il y a une parole qui est libérée, j'imagine qu'il y a une réaction du patriarcat ou je sais pas de la domination masculine. Mais c'est impressionnant à observer. Là, il y a tout un pan par exemple, la culture musicale qu'écoutent les jeunes, qui véhicule c'est extrêmement réactionnaire sur les valeurs familiales, sur la identitaire, etc. En fait, c'est des choses qui, à mon époque, n'existaient absolument pas, où même la musique écoutée les jeunes était héritière d'une libération sexuelle des années 60-70. Aujourd'hui, Esther, elle met plus de robes et de jupes, par exemple. Elle adorait ça quand elle était petite, mais elle en met plus parce que les garçons la font chier. Merde, j'ai dit un gros mot. Les garçons l'embêtent. Et les autres filles pensent que c'est une fille facile si elle met des trucs comme ça. Donc, en fait, ça, c'est encore un truc sur un vêtement. Enfin, c'est étonnant, quoi, de voir qu'on. Alors que c'est un débat qui semble être central dans la société, à l'endroit où sont éduqués les enfants, ça ne semble pas passer.
I be hating sucker MCs and the sucker niggas posing like they hard when we know they damn card. What you figure? Rhyme wise, I do the figure eight so concisely. Musically, we are the herbs, so sit back and light me. Inhale. My style is kinda fat, reminiscent of a whale. Young girls' desires for the female's dreams. I be the abstract poetic representing for queens. Socially, I'm not a name, black and white got game. If you came to the jam, well, I'm glad you came. See, nigga first was used back in the deep south. Falling out between the dome of the white man's mouth. It means that we will never grow. You know the word, dummy. Upper niggas in the community think it's crummy. But I don't, neither does the youth, cause we am. Race adversity, it goes right with the race and niggas. Nigga, nigga, I throw the sucker in the front. Both the ones that fuck the sucker niggas. Nigga, nigga, it's the neo nigga of the 90s. Come on. The sucker niggas posing like they hard when we know they damn call. What you figure? Rhyme wise, I do the figure eight so concisely. Musically, we all the herbs, so sit back and like me.
Eh, c'est quoi?
Ben, c'est le contrôle de SVT.
Y'a contrôle?
Ben oui, y'a contrôle.
Ben oui, y'a contrôle. Putain, mais pauvre fille cette meuf. Eh, vous savez qu'il y avait contrôle, vous?
Pas contrôle, c'est sûr.
Y'a contrôle? Putain, j'ai complètement oublié.
Vous êtes naze, hein, ça fait des semaines qu'il est prévu le contrôle.
Une note pour une prise pour vous, hein, ça changera rien.
Mais fais voir le truc, c'est sur quoi?
Bah c'est pas maintenant que tu vas réviser.
C'est pas maintenant que tu vas... Mais t'es conne ou quoi?
Un extrait des Beaux Gosses, évidemment, de Riyad Satouf, sorti en 2009, un film dans lequel on s'insulte beaucoup au collège. Et puis une chanson que j'ai choisie dans la BO du très beau film de Jonah Hill, 90s, un film qui raconte l'adolescence, le passage à l'adolescence d'un jeune garçon de 13 ans à Los Angeles. Aurore Vincenti, autrice des mots du bitume, de Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de rue. On a envie de vous demander comment les mots des adolescents des milieux populaires et comment cette grossièreté diffuse aujourd'hui dans toutes les couches de la société, y compris dans le très bourgeois collège d'Esther, l'héroïne de Riyad Satouf.
Alors, d'une part, je vais répondre avec, je pense, un élément qui n'aura échappé à personne. Les réseaux sociaux, on communique plus, les espaces géographiques les frontières géographiques sont brouillées ou en tout cas ouvertes grâce à la communication et à Internet et notamment grâce au streaming. Et on vient d'écouter du rap. Alors, Tribe Called Quest, c'est un peu ancien et un peu déjà du rap un peu...
Ça vient des années 90.
Ça vient des années 90. C'est déjà suranné et presque chic d'écouter Tribe Called Quest. Là, aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus démocratique en réalité. Alors, nous, du côté de nos élites, on a l'impression que c'est une musique de sauvage et que vraiment, on a peine à ouvrir nos médias, notamment à cette musique-là. On diffusera peu de booba sur les chaînes généralistes, par exemple de radio, mais il se trouve que c'est ce qu'écoutent les jeunes, le rap, et ils en écoutent beaucoup, et que ce soit Booba, Damso, PNL, et bien toute cette langue-là, elle traverse les frontières grâce à cette musique, à mon sens, en grande partie, en plus des réseaux sociaux qui est un peu la réponse standard. Donc je pense que le rap est à rendre responsable de ces déplacements, de ces mouvements, de ces métamorphoses. Et donc il transforme le territoire en réalité. Et c'est ce qui fait que dans un lycée, dans un collège comme le Collège Royal, dans lequel va Esther.
C'est son surnom.
Dont j'imagine bien qu'il se situe dans le centre de Paris. Et je peux imaginer où exactement. Eh bien, on se retrouve avec des jeunes de très bonnes familles, jeunesse dorée, qui emploient ce genre de mots-là parce que ça permet d'entrer dans des codes de transgression au moment de l'adolescence. Donc c'est là que se rencontrent deux choses, l'abolition des frontières par les mouvements du rap notamment, et le fait que bah du coup c'est vraiment là, ça nous permet en tant que petits jeunes bourgeois de prendre le pouvoir aussi, de se mettre à s'exprimer et de transgresser, alors qu'auparavant on était quand même très très gentil et très sage et on le faisait moins quand on venait de bonne famille.
Une question très intéressante de pouvoir. Alors il y a quelqu'un qui vous relie, Aurore Vincenti et Riyad Satouf. C'est Alain Rey, puisqu'il a signé votre préface, Aurore. Et puisque Riyad Satouf, vous avez illustré l'édition 2019 du Robert, avec un très beau dessin d'Alain Rey. Vous avez eu du mal à le dessiner, vous avez raconté.
Non, il n'est pas facile à dessiner, en fait. On croit qu'il est facile, mais en fait, un petit coup de crayon de travers et on dirait un petit peu un pervers pépère, des fois. Donc, il faut... Alors, ça le ferait marrer quand même. Je pense qu'il est content de ça, mais... Et à un moment, je me disais, avec son petit regard, comme ça, il y a un air coquinou qui est extrêmement... que j'ai dû un peu moduler. Donc, j'ai refait ce dessin très souvent.
Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Mais on va écouter Alain Rey, parce qu'il est très facile à écouter, même s'il est difficile à dessiner. Vous parliez justement des réseaux sociaux, Aurore Vincenti.
Les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, il y a des quantités de problèmes de langage qui se posent. C'est-à-dire que ce sont des langages spontanés, donc proches de l'oral, mais ils sont écrits. Donc il y a un problème de transcription, et on en parle souvent en termes de faute d'orthographe, mais c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Il faut dire qu'il y a des façons de noter la parole, qu'elles se sont figées au point de vue social, que l'école est chargée de transmettre, et c'est bien parce que il faut qu'il y ait une communauté de pratique dans ce domaine pour qu'on puisse se comprendre, mais à côté de ça, il faut laisser la langue la possibilité d'évoluer. Et cette évolution, on va la trouver dans les réseaux sociaux plus qu'ailleurs, avec un appauvrissement d'ailleurs. C'est toujours la même chose. Prendre ce qui est neuf, le normaliser pour que ça soit la même chose entre tous les francophones, et ensuite l'enrichir, parce que dès que les gens auront la possibilité, y compris sur les réseaux sociaux, de réutiliser des mots qui sont un peu oubliés, ça enrichira leur manière de s'exprimer. Ça sera plus gai, ça sera plus triste, ça sera plus drôle, ça sera plus méchant, ça sera plus tout. Alors la violence dans le langage, c'est un problème éternel. La grande question, c'est que ça, à mon avis, toujours existé, mais que c'était pas noté. On découvre de plus en plus, par exemple, des textes en argot du 15e siècle, des choses comme ça, mais c'est très exceptionnel. Donc tout ce qu'on a comme tradition du français, c'est du beau langage, et qui est fait pour être du beau langage. Donc la manière réelle de s'exprimer des gens, on la connaît très mal. On peut pas dire qu'on la connaisse pas du tout, parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le bon esprit de noter les choses. Il y a par exemple le médecin du petit Louis XIII, il était entre l'âge de 6 ans et l'âge de 12 ou 13 ans, qui a noté tout ce qu'il disait. Et on s'aperçoit que les fautes de français, que les choses qui nous paraissent modernes, que les grossièretés, pas trop, parce que c'est le fils du roi quand même qui est surveillé dans son langage, mais il y en a tout de même, sont très proches de celles d'aujourd'hui. Mais ça, on n'a pas dans la littérature. C'est jamais marqué, c'est jamais noté. Donc, on a une idée qui est artificielle et qui est fausse du langage du passé. Et au contraire, aujourd'hui, comme tout est noté, tout est écrit, et que les gros mots, entre guillemets, ne sont plus punis, que c'est pas considéré parce que c'est devenu quelque chose de banal pour exprimer des sentiments d'agressivité ou de moquerie, etc. ça fait que le langage apparaît, vu de l'extérieur, de plus en plus brutal, de plus en plus violent. En réalité, il l'a toujours été, c'est son affichage qui a changé.
Un affichage donc on peut voir sur les réseaux sociaux, qu'on peut lire aussi dans les cahiers d'Esther, puisque autour d'elle, il y a pas mal de garçons, hein, surtout, qui parlent très mal. Alors, on peut aussi lire « Journal sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII », donc du médecin du roi, Jean Héroard. Alors, on a parlé de l'influence des quartiers populaires, mais moi, ce que je trouve assez fou dans ces expressions, c'est à la fois leur vulgarité et ce virilisme. Alors, dans les années 90, on y revient, on disait « nique ta mère ». Aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Cette expression revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, on demande à des enfants très, très polis, comme ça, tout gentils, s'ils parlent comme ça. Et vous le faites, Ria Tatouf, dans la bande dessinée avec Esther. Et elle dit « non, mais en vrai, je parle beaucoup plus mal ». Et elle le dit, elle l'utilise tout le temps. Cette expression, une si mignonne petite fille, comment une linguiste comme vous, Aurore Vincenti, se l'explique ?
Je trouve ça, en réalité, très intéressant. Déjà, parfois, elle la tronque, cette expression, et elle enlève le ouille de couille, ce qui fait qu'elle s'embalèque, ce qui est assez commun, c'est ce qu'on appelle une apocope. Et en fait, on fait disparaître la couille de l'expression, hein, quand on s'embalèque. Finalement, on détesticulise le mot. Et on pourrait penser, donc, que cette expression, elle est désémantisée. C'est-à-dire qu'en fait, on perd le sens, la signification réelle de ce que c'est que se battre les couilles. Essayer de le faire visuellement, battre les couilles, c'est quand même quelque chose de très concret. Et quand on s'embalèque, bah, on perd cette image-là. Mais quand elle récupère l'expression en entier, elle fait quelque chose de très intéressant et à deux moments différents. Au début, d'ailleurs, je crois que c'est dans le tome 3, elle emploie l'expression, elle s'en excuse quand même beaucoup. Mais elle dit que c'est normal, les garçons, ils ont des couilles, ils ont des testicules, et que donc, l'expression, ça vient du fait qu'ils peuvent se battre les testicules. Donc, elle s'interroge quand même sur ce qu'il y a derrière l'expression. Elle n'est pas complètement figée. Donc, autant dans « je m'en fous », le verbe « foutre », on l'a complètement perdu, on l'a complètement désémantisé. Autant dans « je m'en bats les couilles », elle est à un âge où se pose la question de la signification réelle de l'expression par rapport à des enjeux de sexualité. C'est-à-dire que c'est au moment où elle adopte des codes de langage qui sont plus ceux de ses parents, c'est l'adolescence, c'est l'affranchissement de l'autorité parentale, mais c'est aussi la question du genre et même du sexe, de la sexualité qui se pose. Les garçons, eux, ils en ont, moi j'en ai pas, mais qu'est-ce que je peux faire de cette expression ? Et puis d'ailleurs, je m'en fous, et ça c'est tome 4, elle dit, de toute façon, ok, je m'en excuse encore un peu, mais plus vraiment, parce que 1, ça me fait plaisir de vous choquer, et 2, ça me fait bien rire d'employer cette expression. Et là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, c'est génial cette expression, elle dit, je m'en bats les couilles, et d'ailleurs, je pourrait en battre des couilles. Donc là, elle récupère l'expression et d'un point de vue presque féministe violent, où elle se met à non seulement dire qu'elle en a, elle, des couilles, mais à récupérer les couilles des garçons et un peu les écraser, quoi. Bon, c'est ce qui est assez... Elle semble prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'aimerais rappeler quelque chose, parce que cette question des couilles, qui est très localisée
chez les
hommes...
Je crois qu'on n'a jamais autant prononcé ce mot sur cette chaîne. À continuer.
Je vais passer à testicule. Eh bien, le mot testicule en lui-même, à l'origine, ne renvoie pas aux couilles. Il renvoie au sexe, aux gonades des femmes et des hommes. Testis, en latin, c'est le témoin. Et culus, cul, c'est minuscule, monticule, c'est un diminutif. Donc ce sont des petits témoins. Petits témoins de quoi ? Du sexe de la personne. Donc à l'origine, le mot testicule renvoyait à la fois aux ovaires et aux couilles. Donc aux gonades en réalité. Donc ce qui fait que quand elle dit « je m'en bats les couilles », en quelque sorte, elle récupère quelque chose et elle dit « oui, mais moi aussi j'en ai ». Et comme l'expression « je m'en bats les ovaires » n'existe pas, eh bien, pourquoi pas, elle se la récupère et elle la manipule, elle la transforme, elle lui tord un peu le cou. Et c'est ce qui rend ce côté assez jouissif dans son rapport au langage.
Riyad Satouf, qu'est-ce que ça vous
génial,
inspire
hein, j'adore maintenant. Et justement, Aya Nakamura dit « je m'en bats les reins ». D'ailleurs, Aurore Vincenti nous a expliqué en quoi les reins étaient proches des couilles. J'ai trouvé ça génial.
Redéploie-nous si vous pouvez nous le dire rapidement.
Ça, mais j'ai étudié un peu l'embryologie et je sais que les reins et les gonades ont la même origine embryonnaire, mais vous allez avoir
en fait, c'est comme de dire « je m'en bats les ovaires, je m'en bats les reins ».
En quelque sorte. En tout cas, il y a quelque chose, même dans la forme des reins, hein, de ces deux petites... boule, enfin pas tout à fait en forme de haricot, qui rappelle ce côté double des ovaires et des testicules, des couilles.
On a appris plein de choses en très peu de temps, il y a de ça tout. Charlotte Puldowski, puisque vous, vous produisez un podcast et qu'on y entend une jeune adolescente, elle est au début de son adolescence, Justine, raconter sa vie, elle utilise un certain langage quand elle vous parle à vous. Alors, quel mot choisit-elle ?
Alors, à moi, elle me parle de manière assez polissée. J'arrive quand même, donc on enregistre chez elle, ce qui est quand même l'espace aussi de l'autorité de sa mère, qui est la personne avec qui elle vit. Et puis j'ai l'âge de sa mère à peu près, donc je représente quand même les adultes. Donc elle me parle pas comme elle parle dans la cour de récré. Et à un moment donné, dans un des épisodes, on parle de sa relation avec sa mère, avec qui elle est très fusionnelle. Et je lui dis, est-ce que tu lui dis tout ? Elle me dit, oh bah non, pas tout quand même. Et je lui dis, ah bon, qu'est-ce que tu lui dis pas ? Et elle me dit, bah par exemple, je lui dis pas que je dis des gros mots. Et c'est aussi, et ça rejoint ce que disait Aurore, je pense que c'est aussi la poche de subversion qu'ont les enfants, qui sont quand même tout le temps maîtrisés par les adultes dans leur emploi du temps, dans leur vie, leurs goûts, leurs droits, leurs activités, etc. Et que là où ils peuvent un petit peu se révolter, prendre de la liberté, c'est utiliser ces mots-là. Et à un moment donné, je crois que je lui demande quel genre de mots elle utilise, et elle me dit, genre, hyper gênée et gourmande à la fois, ben je dis putain parfois, et parfois je lâche un truc et je le dis devant maman, alors elle se rend compte que je le dis, elle me dit, oh ben non, tu dis pas ça. Et aussi comme Esther Wesh, bon, mais qu'elle a un peu abandonné parce que par ailleurs Justine, elle est moins populaire qu'Esther au collège. C'est même un peu le contraire, c'est un peu compliqué pour elle avec ses camarades au collège. Et du coup, c'est un peu comme si elle n'avait pas le droit d'utiliser certains mots cool. Et Wesh, par exemple, ou un mot, j'ai jamais bien compris ce que c'était censé être. Je crois que c'est genre damned, comme on dit en anglais, genre ah merde. Et elle dit down ou un truc comme ça. Et elle a essayé de le dire au collège et les gens l'ont dit, ah non mais laisse tomber, c'est pas pour toi. Et du coup, utiliser les mots de la subversion, donc enfin les mots vulgaires, les gros mots, c'est déjà une liberté qu'elle est pas censée encore acquérir parce qu'elle est pas assez cool. Et du coup, je trouve qu'il y a un enjeu de domination hyper intéressant, enfin qui moi m'a pas mal fascinée, c'est que les enfants sont quand même dominés par leurs parents, même si la croyance un peu générale voudrait que mais non, ils sont pas dominés, ils sont protégés, mais enfin ils sont quand même dominés par les parents et par la société de manière générale, et que quand ils sont cool, ils dominent au moins au collège, enfin ou dans leur classe, qui est un endroit où les adultes ont une place différente, on va dire. Et du coup, finalement, Justine, elle peut pas utiliser ces mots-là, qui serait une forme de domination à laquelle elle aurait le droit quand elle n'est pas dans la domination parentale. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense qu'il y a un enjeu de subversion très fort à travers les gros mots, en tout cas.
Aurore Vincenti ?
Oui, j'ai été frappée et chez Justine et chez Esther, qu'il y a des classifications qu'elles opèrent, où elles expliquent, voilà, il y a les petits, les moyens et les grandes racailles. Justine, elle, quand elle parle des clashs, elle explique qu'il y a les harceleurs, les populaires, et que quand on arrive à clasher, c'est le sens de la répartie qui permet d'accéder à un niveau de popularité supérieur. Et elle est un peu entre deux, hein. Elle dit, moi je clash bien, enfin pas mal, donc j'arrive à entrer un peu dans le jeu du pouvoir et de la domination. On ne va pas faire du Bourdieu dans le texte, mais le langage et les jeux de pouvoir, enfin le langage est un laboratoire de jeux de pouvoir, et notamment à cet âge-là. Et elle explique comment elle arrive parfois à entrer dans ces cercles-là de plus populaires, parce qu'elle arrive bien à clasher. Et en effet, elle a ça, elle a cette aisance, j'imagine assez bourgeoise, même si je ne connais pas son milieu d'origine, mais en tout cas aisée. Ses parents ont eu l'air d'avoir fait des études, puisqu'elle s'exprime dans une langue assez châtiée, avec un vocabulaire varié. Et en même temps, elle a aussi l'aisance de changer de registre de langue, ça, et d'aller vers du plus familier, plus familier. Mais en réalité, Esther, elle a la même capacité de passage d'un registre de langue à l'autre. Quand elle entre dans ce qu'elle appelle ses délires, où elle raconte des histoires qui se passent au Moyen-Âge et que tout à coup, elle parle au passé simple et elle emploie des mots qui ne font pas du tout partie du langage courant, elle a une grande aisance de déplacement entre les registres de langue. Et en fait, ces rapports de pouvoir, eh ben, ils se jouent là, dans la fameuse récréation qui est un genre de, vous parlez de, j'ai noté, de poche de subversion, hein, cette zone-là qui n'est ni à la maison ni totalement dans la salle de classe, cette cour de récréation ou de recréation de soi, c'est le moment où on peut se recréer de la langue et s'émanciper à la fois de la grammaire qu'on va nous inculquer en classe et de l'autorité parentale qui va nous dire, ah ben non, tu dis pas des grands mots, non, tu t'exprimes pas comme ça, fais pas ci, fais pas ça, en fait. Donc c'est un labo C'est un labo d'émancipation pour moi, le langage, qui se joue dans la cour de récréation et qui permet de n'être plus enfant, pas encore adulte, parce que c'est encore un espace de gratuité. On est encore à l'école, il n'y a pas à vendre ses compétences pour obtenir un boulot et être payé ensuite. C'est encore très gratuit et c'est pour ça, je pense que c'est un âge. Enfin, on revient sur cette question de l'âge frontière. Pour moi, l'adolescence, c'est vraiment ce moment où tout est possible en matière de langue. C'est le moment où on est potentiellement le plus créatif. Alors, on est d'autant plus créatif qu'on vient de milieux populaires parce qu'on a moins de grammaire et de parents qui nous embêtent. Mais il n'empêche que voilà, c'est pour moi une zone de créativité optimale. Ça bourgeonne.
Riyad Satouf, malgré des rapports de domination qui sont très bien décrits dans les cahiers d'Esther, un moment de créativité, il y a de la liberté, il y a de la fantaisie. Et finalement, c'est ça aussi avoir 13 ans.
Oui, oui. Puis c'est vrai que quand on va sentir parler de différents niveaux de langage, il y a une chose, c'est que aussi Esther, quand elle était petite, elle regardait des dessins animés de Walt Disney, donc Réponse et tous ces trucs-là. Elle lisait beaucoup aussi de contes de fées et elle a gardé une sorte de façon de parler des contes de fées qu'elle emploie des fois quand elle se met à parler sérieusement. C'est avec justement le passé simple et un côté conte de fées. Mon père mourut écrasé par une calèche. Et en fait, ça ne veut rien dire, mais ça la renvoie à Réponse. Je me rappelle quand elle était toute petite, bien avant, elle était venue quand même un soir avec ses parents chez moi. Et pour se débarrasser d'elle, ses parents l'avaient mis, et j'étais d'accord, hein, elle l'avait mis devant Réponse. Et elle regardait, je me rappelle, elle était toute petite, elle était collée à l'écran comme ça. Et on voyait Réponse qui avait ses cheveux comme ça, qui faisait « Mais que voulez-vous que je fasse? Voulez-vous que je fasse encore le ménage ?» Je sais pas, elle disait un truc avec ses cheveux et... Esther, elle regardait ce truc et elle mimait. C'est comme si son visage était incroyable. Elle faisait les mêmes trucs, comme si elle aspirait tout ce que lui renvoyait ce truc dans lequel elle s'identifiait. Et c'est marrant de voir voilà que ceux qui ont eu accès à du français peut-être bien parlé ou parlé d'une certaine façon, ils vont l'intégrer et ça va ressortir plus tard. Je sais pas.
Oui, je pense qu'en effet, l'influence du récit, des récits d'enfance, des contes de fées, est grande, notamment dans l'emploi de ces temps qu'on n'emploie plus, par exemple, comme le passé simple. On ne les étudie que dans la littérature, et de pouvoir les ressortir dans la vie réelle, ça rend son personnage incongru. On sent qu'elle s'amuse beaucoup, en fait, en langue.
Et on s'amuse beaucoup en lisant les cahiers d'Esther, donc de Riyad Satouf. Les mots du bitume, c'est votre livre, Aurore Vincenti, publié aux éditions du Robert. Et puis on peut écouter le podcast Entre, produit par votre studio Louis Média, Charlotte Pudlowski. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, une leçon de choses qui devrait beaucoup vous intéresser. Et aujourd'hui, Sophie Bobert nous propose d'écouter Abnous Chalmani. C'est une autrice iranienne et elle nous parle de son enfance en Iran, du communisme et puis de son exil à Paris. Mais ça commence à Téhéran.
Ah, les paysages, ça commence avec le nord de l'Iran, de Téhéran, qui est le plus beau quartier de Téhéran parce que tout a été détruit, reconstruit. C'est assez moche, Téhéran. Mais dans le nord, il y a ce qui a été préservé, il y a les vieilles maisons. Donc cette espèce d'ambiance, toutes les portes étaient ouvertes et les montagnes derrière, c'est mon premier souvenir de Téhéran. Et après évidemment la mer Caspienne, là, c'est la première fois que je voyais la mer. Donc voilà, l'Iran pour moi c'est un mélange entre les montagnes au-dessus de Téhéran et la mer Caspienne, cette mer fermée, pleine de caviar.
Vous êtes issue d'un couple d'intellectuels, plutôt laïcs. Votre père dirigeait un laboratoire de chimie et votre mère, je crois, était secrétaire. Mais voilà, vous, vous êtes née 2 ans avant la Révolution, avec des femmes qui, en 48 heures, se sont couvertes de voiles noires.
C'était horrible. C'était horrible parce que même enfant, on voit la différence. L'Iran, comme beaucoup de pays orientaux, c'est quand même beaucoup de couleurs, c'est quand même beaucoup de décolletés, c'est quand même beaucoup de bijoux, c'est quand même donc beaucoup de bruit, de fureur, de beauté. Moi, j'ai été jusqu'à la Révolution, jusqu'au moment où le voile a été imposé, c'est-à-dire le jour de mes 2 ans, le 1er avril 79. Et c'était lié, les femmes pour moi étaient liées à la couleur, à la beauté, et tout d'un coup, toutes les femmes ont disparu. Est-ce que le fait de plus avoir de singularité, c'est quand même la disparition des femmes? Il n'y avait plus de singularité, il y avait de l'anonymat qui s'était installé, mais tant de se ressembler toutes, il n'y avait plus de singularité, plus de personnalité, plus de femmes. C'était assez terrifiant, et surtout c'était triste de voir ces rues, tout d'un coup si colorées, si joyeuses, devenir et silencieuses, plus de rire, plus que des visages, et des visages, mais d'une tristesse.
Et puis, à l'âge de 9 ans, votre famille décide de quitter l'Iran. Ça devient trop dangereux ou trop triste, sans doute. Et vous arrivez à Paris. Vous racontez dans votre livre « Les exilés meurent aussi d'amour », le choc de l'arrivée, la laideur de votre nouvelle maison et aussi votre solitude d'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, dans ce livre, passe de nombreux mois caché sous le canapé, accompagné d'un dictionnaire et de bonbons à attendre, hein, des jours meilleurs.
Oui, c'est ça. J'ai trouvé cette métaphore assez intéressante parce que je n'ai pas passé personnellement ma vie sous le canapé. Mais il me fallait, pour un roman, hein, de visualiser cette espèce d'isolement, de solitude, de tristesse et cette espèce de brouhaha, parce que on est quand même dans un autre pays, donc la langue pratiquée à la maison reste l'iranien. Mais en dehors, on n'entend rien. C'est comme si on avait du coton dans les oreilles. Donc c'est très compliqué de trouver son équilibre quand on comprend pas ce qui se passe. Dès qu'on allait à l'extérieur, c'était un espèce de sentiment encore plus marqué de solitude, encore plus que quand on était à l'intérieur de la maison. C'était très étrange, c'était laid, c'était seul. Et la langue, je pense que ça a commencé avec la langue, c'est la langue qui m'a sauvée, c'est ce dictionnaire qui m'a sauvée. Parce qu'en plus, j'étais pas à l'école. On est arrivé en février 85 et je suis rentrée à l'école en septembre 85. Donc tous ces mois-là se sont passés en tête-à-tête avec Victor Hugo, mon père et un dictionnaire. Et ça a été, je pense que c'est interminable. C'est une espèce de boîte à trésors de sentiments, d'émotions que je pourrais exploiter toute ma vie, parce que je n'oublierai jamais ces mois-là. C'était la découverte, d'abord l'angoisse et ensuite la baguette magique. Ce qu'une langue peut faire. C'était magique.
Quels sont les auteurs qui ont porté la jeune Abnoush Elmani, adolescente?
Évidemment, Victor Hugo, mais c'est Victor Hugo pour tellement de gens. Mais Victor Hugo, c'est vraiment la France, c'est magnifique, c'est une langue, c'est sublime, moi j'adore.
À quel âge, Abnoush Elmani, avez-vous pris conscience des différentes forces politiques et de leur perversité?
Oh, les forces politiques depuis toujours. Je suis née dans une famille communiste. C'est pas quelque chose dont on s'en débarrasse comme ça. Donc, dans ma famille, on s'engueulait entre trotskistes et staliniens. Je crois que le premier mot que j'ai dit à papa, maman, ça a été Marx. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'occupait enfant. Et effectivement, à l'âge de 17 ans au lycée, où on commence à être sérieusement politisé, j'étais en plus dans le Marais, lycée Victor Hugo, évidemment, rue de Sévigné. Et là, je découvrais des jeunes de mon âge, de 17 ans, qui vivaient dans des appartements dingues, avec des bibliothèques interminables et qui étaient absolument tous trotskistes et qui m'invitaient pour la seule raison que c'était tellement chic d'avoir une réfugiée politique iranienne à table et où mon devoir était de parler de l'Iran et de ce que je pensais de la situation avec les parents, parce qu'évidemment là les parents étaient ravis de recevoir une authentique réfugiée politique, une authentique communiste qui avait souffert le martyr dans le pays. Bon, qu'importe que j'ai eu 2 ans pendant la révolution, ça faisait illusion quand même. Donc effectivement c'était un petit peu gênant et je me rendais compte que ce que je pensais être une tare qui était le fait d'être né ailleurs et d'être né dans une famille de gauche, et bien dans la bourgeoisie française de gauche, et bien c'était mon ticket d'entrée.
De l'Iran à la gauche caviar, donc à lire d'Abnoush Chalmani, Les exilés meurent d'amour aussi, et c'est publié chez Grasset. En attendant, vous pouvez retrouver nos podcasts et nous réécouter sur le site de France Culture, par exemple. Je dois remercier toute l'équipe, évidemment Avril Ventura, avec qui je conçois et prépare cette émission avec un grand plaisir chaque semaine, Philippe Baudouin qui la réalise, et Delphine Baudet qui était à la prise de son aujourd'hui.